toujours souplet. La direction vous remercie.
Marceau, le midi.
13h02, on a de la belle visite en studio. D'habitude, on se parle tout le temps sur Zoom parce qu'il est parti à gauche et à droite faire de la chasse et de la pêche, faire des tournages. Il s'amuse, il a du fun, il a du plaisir.
Mais il est venu seul, t'as-tu?
Là, il est venu seul.
As-tu remarqué?
Oui.
As-tu une peine?
C'est ça. J'ai attendu parce qu'une fois qu'il était rentré dans le studio, je regardais comme avec mon autre œil à l'extérieur. Je me suis dit, à un moment donné, elle va arriver, Kate. Puis non, elle est toujours pas là.
Je te sens triste.
C'est un jour triste, mais c'est pas grave. On va l'accueillir. C'est Martin Bourget qui est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Salut Martin.
Hey, salut vous autres. Hey, puis, juste pour toi. Oui. J'ai demandé à Martin.
Puis qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle dit non, j'y donnerai pas ça.
Oh!
Elle me donnera pas sa présence.
Oh, okay. Non, c'est pas vrai. Un des meetings part de sa tête. Il faut savoir que quand on n'est pas sur le terrain comme ça, puisqu'on est une semaine sur deux sur le terrain, l'autre à la maison, ben, au bureau, puis on est propriétaire de l'entreprise,
ben oui.
On est en gestion à 16-18 heures par jour administratif. Donc, c'est sûr que des temps comme présentement, avoir Kate en entrevue ou en meeting, c'est excessivement dur, encore plus que moi.
Mais on est content que tu sois là pareil.
Oui.
Ben, je suis content de vous voir, moi.
C'est fun de te voir en vrai.
Oui.
Depuis la pêche et les poissons dans le fond du lac. Là.
Il faut reprendre ça. Toi, il faut vraiment reprendre ça. Là.
J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'il y ait un gros poisson.
Ça peut pas être l'histoire sans fin.
Yannick aimerait ça.
Ouais, l'histoire sans fin.
Faut qu'il y ait une phase 2 là-dessus, quelque chose. Là.
Je pense encore aux pauvres poissons qui sont tous attachés ensemble dans le fond du lac. Parce que Pascal les a laissés tomber là, puis ils attendent toujours que Pascal revienne un jour.
Ah, oh, là, ils se disent la CV.
Comme plusieurs petits poissons de la Grande Allée. Elle va revenir. Non, mais dis qu'elle est aux toilettes.
C'est chiant, hein. Mais c'est légal.
Elle va revenir. Hey Martin Bourgeois, on parle du projet de loi C-21, mon ami.
Oui, mais le projet de loi n'est plus un projet de loi parce qu'il a reçu la sentence royale en 2023.
Donc, c'est la C-21.
Exactement. C'est la loi C-21, mais on se souviendra dans toute notre verbatim par rapport à C-21 qu'il y a une notion qui a été conservée dans tous les amendements qu'on a mis en place, les fameux G4 et G46 qu'on avait modifiés pour qu'ils soient plus acceptables parce que même des députés libéraux s'y étaient objectés. On avait gardé une définition evergreen. Evergreen, toujours vert, on va s'entendre, un peu comme les épinettes par chez vous, les feuilles tombent pas. Donc, ce qu'on se permettait avec ce caractère evergreen-là, c'était de revisiter les listes d'armes à feu prohibées et d'en ajouter au besoin, compte tenu que les fabricants pourraient modifier les dessins de leurs armes pour réintroduire des armes méchantes et noires sur le marché qui ne sont pas voulues par le lobby anti-armes et par les libéraux. Donc, ça ouvrait la possibilité à, et on le sait avec ce plan au-dessus de nous. Mais là, la semaine dernière, juste avant... je me trompe tout le temps de termes. Je veux pas
l'hommage.
Dire... L'hommage, exactement.
Aux victimes de la Polytechnique.
L'hommage aux victimes de la Polytechnique. Un peu comme à tous les ans, il y a eu des rencontres et on est arrivé avec une nouvelle liste de 324 armes bannies, annonçant une deuxième phase qui devrait être vers le mois de février, en théorie, d'un autre à peu près 200 armes, suivant là, toutes les consultations qu'il y a présentement avec la GRC. Et on annonce que lors de cette deuxième phase-là, pour des raisons qui sont évidentes, hein, si les armes sont rendues prohibées, tu ne peux pas te promener avec dans ton véhicule, eh bien, le gouvernement va avoir recours aux services de police pour aller chez les individus chercher les armes. Évidemment, ça lève énormément de grogne, mais en même temps, ce dossier-là est un dossier qui est excessivement mal compris par la population et demande beaucoup d'explications. Les propriétaires légitimes dans ma
mal compris. Puis il y a de l'émotion. Puis quand il y a de l'émotion,
beaucoup.
Des fois, t'es pas rationnel. Je vais te poser une question. Je pense que tout le monde pourrait y répondre, mais je sais que tu vas y répondre toi aussi. Tu sais, les armes de Picturmel, là, ce qu'ils utilisent
oui.
là, pour tirer du monde en bosse, là, c'est-tu des armes qui ont été acquises correctement de la part des propriétaires, donc des tueurs, ou c'est des armes qui sont illégales, qui sont passées par les frontières entre les États-Unis puis le Canada dans des réserves. Ils ont pris ces armes où?
Il y a deux sources. La première, qui est la majoritaire, là, à raison de 70 % dans les grandes villes comme Toronto, elle est à 90 % quand on est dans le Canada au complet. Lorsqu'on entend les témoins experts qui sont passés au CQ Meeting, ils sont médecins légistes, professeurs de chaire de recherche, directeurs de chaire de recherche, directeurs de police de certaines grandes villes, nous disent que ces armes-là, qui sont retrouvées sur les lieux de méfaits, proviennent de l'autre bord de la frontière, ont été importées illégalement, ou encore ce sont des armes du marché qui ont été volées et criminalisées. Mais il existe une exception et le lobby anti-armes oublie jamais de nous le remettre sur le nez lorsqu'ils vont faire des pauses avec les différents responsables des grandes tueries. Ils vont dire, par exemple, un tel était membre d'un club de tir, un tel était membre d'un club de tir. Et c'est là...
Mais ça, ils jouent avec les mots, là.
Bien, pas tout à fait, Yannick.
Ben oui, ils jouent avec les mots.
Parce que, écoute, ma position à moi, là, quand je vois ça, quand je les vois poster des responsables de tuerie qui étaient membres d'un club de tir, etc., je dis, bien, justement, arrêtons-nous là. Avant de tenter de mettre des nouvelles lois en place, on a déjà un processus qui est excessivement complexe pour l'attribution, pour recevoir un permis qui me permet d'acheter et de posséder des armes au Canada. C'est un processus administratif qui est plus lourd que se marier ou se divorcer, right? Jusque-là, on s'entend? Si ce système-là est fait adéquatement, la délivrance de permis est contrôlée, les antécédents sont vérifiés et lorsque tu fais une demande de PPA, tu dois inscrire des références que le bureau du contrôleur des armes à feu va communiquer avec ces gens-là pour vérifier est-ce que monsieur est en bon état de santé mentale, est-ce que, etc. Mais dernièrement, lors d'un live avec Christian Geis, on exprimait qu'un de nos collaborateurs avait reçu son PPA sans même que ses références aient été appelées. Là, je suis tombé sur le derrière parce que se sont mis à rentrer des centaines de messages d'utilisateurs qui ont leur PPA en main ou qui ont renouvelé leur PPA et que jamais les références ont été appelées. Donc moi, là, je dis, je suis content que Pauly mette ça en ligne de dire qu'il était membre d'un club de tir parce que ça m'amène à dire, nous autres, les propriétaires légitimes d'armes à feu, là, ce qu'on demande, avant d'avoir une nouvelle ligne de front sur le plan légal qui interdit les armes, on demande que les systèmes qui sont en place soient efficaces parce qu'un Bissonnette n'aurait jamais eu d'armes en main.
Exactement. C'est pour ça que je te dis qu'il joue avec les mots parce que, tu sais, on dit, ouais, mais là, c'est pas tout le temps des armes qui sont passées à la frontière. Alexandre Bissonnette, lui, il s'est procuré des armes à feu de façon tout à fait légale.
Absolument.
Mais si les gens qui étaient autour d'Alexandre Bissonnette, ils n'ont rien à voir avec la tuerie de la mosquée, là, mais si les gens qui étaient autour d'Alexandre Bissonnette avaient fait leur fucking job, c'est-à-dire ce gars-là ne va pas bien parce que tu sais il travaillait dans une entreprise, Alexandre Bissonnette. Oui. Tous les employés qui travaillaient avec disaient que ce gars-là, il allait vraiment pas bien puis il savait qu'il était propriétaire d'armes à feu. Les gens qui étaient autour quotidiennement d'Alexandre Bissonnette, il y a un frère, il y a de la famille, ils savaient qu'Alexandre Bissonnette filait vraiment pas.
Oui.
Il y en a pas un qui a pensé dire à Alexandre, « Alexandre, t'as pas le droit d'avoir des armes quand ça file pas de même. Ça, on pourrait-tu juste t'y retirer? » Il y a un processus, là, avec la police.
Oh, oui, absolument.
Mais j'aime ta ligne, justement, de dire, une fois que c'est enregistré, parce que la majorité, sinon tout le monde le fait, là,
oui.
Je veux dire, quand t'as
oui.
une arme à feu pour la chasse ou autre, ou le plaisir d'un club de tir ou autre, tu respectes les conditions, tu respectes ce qu'on t'impose. Puis en arrière de ça, tu dis, ben, gars, on me l'impose parce qu'il y en a qui vont avoir des armes à feu, puis qui ne devraient pas en avoir, ils pourraient commettre des gestes si un jour la santé mentale flanche. Moi, je pense que ton point, Martin, il est extrêmement important dans la discussion de dire eux collaborent, mais c'est tout le temps eux qui ramassent les critiques, qui se font pointer du doigt, qui se font démolir, qui se font presque traiter de criminels.
Absolument.
Tandis qu'ils respectent tout ce qui est mis en place, mais que derrière tout ça, l'administration, l'administratif, le gouvernemental fait pas sa job à vérifier ce qui proclame comme étant le pourquoi ils demandent ce genre de banque-là avec des noms. C'est « Nous, on va vérifier. Vous n'avez pas le choix de vous enregistrer. Comme ça, on va vérifier puis on va vous protéger. » Puis ils le font pas, tu sais.
Je reprends même la balle au bon.
Vas-y.
Faut faire attention, puis c'est encore plus pesant que ça. On ne respecte pas ce qui a été mis en place. La communauté des propriétaires légitimes d'armes à feu ont mis en place des systèmes en collaboration avec leurs associations, leurs fédérations, en étant sur des tables de concertation. On s'est doté. Volontairement, on s'est doté de systèmes qui sécurisent le fait de manipuler, de garder à la maison, d'utiliser des armes à feu. On fait plus que suivre les règles. On est la ligne de front là-dedans et nous sommes les premiers. Au moment où est-ce que le gouvernement libéral a commencé à parler de mettre des efforts sur le terrain pour protéger les êtres humains qui sont dans les rues contre la criminalité armée, à dire « Hey, on est là, puis on va aider, on va venir comme témoin expert sur les différents comités consultatifs. Question de vous donner du data parce que vous avez une lacune en termes de connaissances là-dedans. » Force est de constater que dès les premières rencontres, lorsqu'on s'est présenté à Ottawa, par exemple, Kate et moi en CQ Meeting, eh bien, on pensait aller donner des données qui allaient être valables pour l'établissement de tout ça. Non, on a passé une heure à se faire discréditer. On a passé une heure à se faire discréditer et à se faire dire, malgré tous les témoins experts qu'on a reçus, qui ont clairement exprimé que les armes possédées par le milieu criminel causent des crimes, les armes possédées par les propriétaires légitimes, et ça, là, allez sur le armes au pluriel, armesafeu.info, tous les rapports d'enquête sont là. Tous les rapports d'enquête. Lorsqu'on a fermé le registre fédéral des armes à feu, il y a un poste de police de Vancouver qui a calé une enquête criminelle à la grandeur du Canada. Ils ont ressorti l'histoire de la criminalité au Canada dans laquelle les armes légitimement détenues par des propriétaires d'armes à feu sont présents, mais en partie infinidécimales comme objet qui a proféré le crime. Et on va plus loin en disant que la majorité, justement, des criminels qui vont proférer des crimes avec des armes légales, bien, sont justement dans le genre de cas qu'on essaye de défendre. Ils n'auraient pas dû avoir un permis entre les mains.
C'est qu'ils vous montrent contre eux, au lieu de vous utiliser comme vraiment des outils puis des alliés dans tout ça, je trouve ça un petit peu tannant. Puis tout ce qui est mis en place pour contrer vos droits quand vous respectez ce qu'eux vous demandent aussi va pas être mis en énergie dans tout ce qui est lutte au crime et aux ventes d'armes à feu voilà. Sur le dark web, sur les imprimantes là, technologiques.
L'imprimante 3D.
De justement, puis de cibler vraiment ceux qui sont problématiques là-dedans.
Y a-tu eu moins de meurtres dans les rues à Montréal par les gangs de rue commis par armes à feu depuis que la C-21 est arrivée?
Je te fais un rapport très, très, très rapide. C'est environ 100 millions par année fiscale d'argent qui est injecté dans ce dossier-là. Présentement, 71 millions dans le programme de rachat avant qu'une seule arme à feu ait été rachetée. Et le bulletin des libéraux là-dedans, c'est 116% d'augmentation des crimes avec armes à feu. 116%. Ça, c'est leur bulletin.
Quelqu'un nous écrit, moi, je suis moi-même propriétaire d'armes à feu restreint pour le tir à la cible dans les clubs de tir. Je serais prêt à passer un test psychologique à chaque renouvellement de permis sans problème. Je serais prêt à passer ce test-là. C'est Alex là, qui nous écrit, un auditeur. Mais...
Puis tu sais, là, on fait face exactement au piège dans lequel les libéraux puis le lobby veulent nous envoyer. On est présentement en train de se faire poser des questions par les différents journalistes. Ouais, mais monsieur Bourget, prenez la nouvelle liste là, puis dites-moi quelles armes là-dedans là, vous dérangent ou quelles armes là-dedans sont vraiment faites pour aller à la chasse. Et c'est drette là que les libéraux et que le lobby anti-armes veut que le débat se tienne alors qu'il n'est pas là. Le débat devrait être, peu importe l'arme, je m'en fous de l'arme, c'est qui la possède? Parce que si je regarde les statistiques, c'est qui la possède? Vous venez de mettre des centaines de millions de dollars pour recueillir du data de professionnels de partout au Canada pour comprendre d'où vient la fuite. Vous l'avez identifié et vous ne l'adressez pas. Là, Dominique Leblanc vient d'annoncer quelques injections d'argent au niveau des services frontaliers, des projections au niveau des services de police.
Et ça, y a-t-il plus de patrouilles au niveau des réserves?
Ben non, c'est ça. Pas encore.
Alors qu'on sait que c'est par là que ça passe.
Absolument, absolument. Là, il y a certaines réserves, on va taire les noms, mais chez lesquelles on peut se rendre, parce qu'on ne veut pas non plus motiver les gens à y aller, chez lesquelles on peut se rendre et avoir à peu près n'importe quoi qui est sur la première liste de 1500 armes à feu, là, après l'OIC, le décret en conseil de 2020. Vous savez, il y a eu les AR-15 et les variants, puis le gel sur les armes de poing, puis il y a eu une liste de 1500 armes qui reflètent, selon eux, des armes d'assaut, là, un terme qui n'existe pas encore. Mais toutes ces armes-là sont disponibles sur le marché noir. Là. On n'a pas freiné aux frontières. Nous autres, là, notre point, là, il est très simple. J'aimerais tellement ça, pouvoir s'asseoir en table de concertation avec les gens de Police se souvient, etc., puis dire, on est d'accord, on veut protéger nos petits culs dans les rues, on veut protéger notre monde, nos familles. Est-ce qu'on peut regarder la source et adresser le problème? On a du data de notre côté et on peut... L'action bénévole qui peut être mise en place par les tireurs sportifs, les chasseurs et les collectionneurs d'armes à feu, pourriez être surpris à quel point ces gens-là, pour la protection des êtres humains qu'ils aiment alentour d'eux autres, seraient les premiers sur la ligne de front à mettre en place des moyens. Mais il faut s'asseoir avec ces gens-là et dire, OK, on sait d'où vient le problème, est-ce qu'on peut l'adresser? Parce que là, vous êtes en train de bannir tout ce qui est d'armes à feu et de créer un faux débat de fond. Puis au bout de la ligne, vous protégez des votes, pas des vies. Puis vous protégez des salaires de lobby et non pas des vies. Là. C'est ce qui est en train de se passer. La dernière sortie là, du lobby anti-armes, de police se souvient, littéralement, il ne faut pas avoir peur de le dire, là.
Celle-là de la semaine dernière, là?
Oui. Vous savez, cette semaine même. Vous savez, dans le programme de rachat, il y a toute une notion de récupérer les armes. Puis récupérer les armes, là, c'est pas peu dire. On parle de sécurité publique. Vous voulez parler de sécurité publique? On va parler de sécurité publique. Récupérer les armes, par exemple, à Toronto, Pistol for Pixels, qui est une initiative qui a eu lieu là-bas, où est-ce que quand William Blair, qui est maintenant à la droite de Trudeau, était chef de police, récupérait des armes à feu non voulues dans les résidences puis l'échangeait contre un appareil photo, une caméra. Okay. C'était une initiative qui a très, très bien fonctionné. Mais évidemment, les gens appelaient la police se rendait chez eux pour transporter les armes parce qu'il y a un certain danger. La première option qui avait été présentée dans le programme de rachat canadien des armes à feu, c'était que Post Canada allait transporter toutes les armes à feu. Est-ce que vous savez combien de millions d'armes à feu que ça représente?
Ben non!
Évidemment, pour des soucis de sécurité, Post-Canada a refusé ça. Alors, cette semaine, Poli se souvient, fait une sortie et demande au gouvernement de mettre pression pour obliger Post-Canada à manipuler ces armes à feu-là dans le programme de rachat. Là, là, à la maison, là, écoutez bien, là, ce sont des millions et des millions d'armes à feu. Là, dans le document de Poli se souvient, ça me fait toujours sourire jaune parce qu'on dit là-dedans, ben peut-être que Post-Canada a peur que les propriétaires légitimes d'armes à feu en furie s'attaquent aux petits commis. Non, attends un peu là. Amène pas le discours ailleurs. Les propriétaires légitimes d'armes à feu ne veulent rien savoir de voir les armes transportées par Post-Canada parce que, ouais, mais les colis seront pas identifiés. Hey! Demain matin, là, si le ministre Leblanc annonce que à partir de la semaine prochaine, les armes se promènent par Post-Canada, toute boîte longitudinale qui peut être une arme à feu va être ciblée par les gangs criminalisés. Tes centres de tri sont à risque, tes commis sont à risque, tes bureaux de poste sont à risque, les trucks de Post-Canada sont à risque. Là, tu vas injecter des centaines de milliers d'armes dans la criminalité. Comprenez-vous le risque? On ne veut pas ça. C'est là où est-ce qu'on se différencie, c'est à la ligne de front, les propriétaires légitimes d'armes à feu qui demandent des moyens pour protéger les êtres humains. Puis des réquisitions comme ça, de forcer le gouvernement à forcer Post-Canada de transporter les armes, je veux dire, c'est dangereux. C'est dangereux. À la limite, ça devrait être souligné publiquement et juridiquement. Là.
Mais avec la gang de Poli, je me souviens, là, je veux dire, c'est des émotions. Ça défie toute logique à un moment donné. Là. Ils ont tellement d'émotions par rapport à ce qui s'est passé, et avec raison, qu'à un moment donné, ils sont prêts à aller n'importe où sans nécessairement rester sur la logique.
Et la raison, je la comprends, Yannick. Ben oui, on la comprend toute.
Mais à un moment donné, c'est parce que tu pénalises les gens qui sont honnêtes, les chasseurs, versus les gangsters qui, eux autres, s'ils veulent des armes, ils vont être capables de s'y procurer, puis ça ne sera pas par le marché légal.
Je suis parfaitement sensible à la cause, très, très, très sensible à la cause. Mais est-ce qu'on est au courant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont passé au travers du drame de la Polytechnique qui, à tous les ans, supplient, Poli se souvient, d'arrêter
ben oui.
pour qu'ils puissent enfin faire leur deuil? Et il faut comprendre qu'il y a un lobby derrière ça. Il y a un lobby, c'est des sous. Alors, il y a des motivations aussi à garder le dossier vivant là-dedans. La semaine passée, Nathalie Provost a finalement sorti les mots. Elle a fait une entrevue dans laquelle elle a eu à s'exprimer en anglais, donc probablement qu'elle a dû... Honnêtement, je respecte beaucoup Nathalie Provost. Ça a été quelqu'un qui, entre autres, a repris Anne-Marie Dussault, qui me faisait déparler, et elle a fronté Anne-Marie Dussault en disant « Non, c'est toujours bien pas ça que M. Bourget a dit quand même. » Je la respecte énormément là-dedans. Mais la semaine dernière, elle a exposé l'agenda de ces lobbies-là. Elle a dit verbalement en anglais sur armesafeu.info, là, vous allez le voir, ce vidéo-là est là, elle dit verbalement « Nous, c'est pas les armes à feu criminalisées qui nous dérangent. C'est les armes à feu qui sont dans les mains des propriétaires légitimes d'armes à feu. » Alors, si on revient à base du dossier, toutes les études pan-canadiennes sur la criminalité placent les armes à feu légitimement détenues par des propriétaires légitimes d'armes à feu comme presque pas présents ou en partie infinidécimales dans les méfaits à ben en bas de beaucoup d'autres objets. Et puis, on annonce que l'agenda réel derrière le discours de Poli se souvient, c'est qu'on se fout un peu des armes criminalisées. On veut cibler les propriétaires légitimes d'armes à feu. Vous voyez comment est-ce que les propos sont très nets et clairs, et ça démontre comment le débat est biaisé. Ça et le fait d'adresser des listes d'armes au moment où est-ce qu'on devrait adresser des individus. Un objet, là, ça n'a aucune intention. Tant qu'un individu ne lui donne pas une intention. Si ce soit un pic, une pelle, un couteau, Écoutez, dans les statistiques, les liquides brûlants et corrosifs sont plus élevés en termes, sont plus représentés dans les crimes contre la personne que les armes à feu légitimement détenues par les propriétaires légitimes. Faut choisir notre débat. On voit clairement qu'il y a un choix qui n'est pas de protéger des vies, mais de protéger des votes, qui est très politique. Puis il y a un lobby qui se protège là-dedans parce qu'il y a des gros sous. Alors, c'est pas des vies qu'on est en train de protéger. Moi, je crie haut et fort que la communauté des propriétaires légitimes d'armes à feu, non seulement elle veut s'investir dans la protection publique, mais elle s'insurge des échappés. Parce que on peut regarder le dossier dans l'ensemble là, puis se dire que du jour 1, où est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre des moyens pour protéger nos gens dans les rues, puis qu'ils ont décidé de tirer complètement à côté en connaissance de cause de la source, bien, le sang qui coule dans les rues présentement, là, il est sur leurs mains.
Ça me fait un peu peur, puis ça me rend triste. Honnêtement, je suis triste de ça parce que je me dis, crime, c'était-tu juste du capital politique au final? En sachant pas trop
pas
où aller dans tout ça, mais en se disant, crime, peut-être qu'on a ce filon-là, puis en tirant dessus, on va avoir l'impression d'avoir avancé quelque chose ou d'avoir travaillé en ce sens-là.
Tu vas avoir la preuve de ça dans pas grand temps, puis ce vidéo-là va être publié sur armesafeu.info. Tu as Bill Blair, au moment où il était chef de police à Toronto, qui dit de sa bouche, mes officiers de police, quand ils ramassent des armes sur les lieux des méfaits, à 70 à 90 %, c'est des armes qui proviennent du milieu criminel. Et on a Bill Blair, William Blair, puis Bill Blair, là, c'est le même gars. Bill, c'est le diminutif de William. Là, okay? Bill Blair a rendu à la droite de Trudeau, dit tout l'inverse. Il faut adresser les armes détenues par les propriétaires légitimes parce qu'ils représentent un défi majeur et n'a pas mis en place de moyens pour enrayer le crime donné. Par exemple, l'opération Centaure, là. Tapez Opération Centaure. Allez voir comment ces gens-là ont remis de criminels sur la droite ligne. On en a des systèmes. On a la frontière limitrophe la plus longue au monde entre deux pays. Tous ces sous-là auraient pu être investis là-dedans. Nous autres, on demande ça, là. Puis des efforts de prévention. Si on parle de détresse psychologique, là, des efforts de prévention. On n'a pas présentement de budget là-dedans. On a désinstitutionnalisé tout le monde qui avait des problèmes et qui avait besoin de support. Puis aujourd'hui, en termes de prévention, est-ce qu'un jeune au niveau élémentaire ou au niveau secondaire sait que s'il y a des doutes sur sa santé psychologique de leur oncle qui a des armes à feu, qu'ils peuvent faire un appel et faire une saisie préventive? Personne ne sait ça. Pourquoi?
Ben nous, on le sait parce que tu viens régulièrement et tu nous en parles.
Mais ça, c'est des moyens. Ça, tu peux sauver des vies pour vrai en faisant
l'expérimenter.
Ça.
Exact.
Yes.
Les gens t'aiment, Martin.
Eh oui, les gens l'aiment, Martin. Kate aussi, elle l'aime.
Malheureusement pour toi.
Hey, toi et Kate, on te suit comment sur les réseaux sociaux?
Ben, essentiellement, le acpnation.com, c'est la place principale. Sur les réseaux sociaux, évidemment. Ce soir, on est en live, justement. C'est pas le front de la bataille, mais Pat Deck va être avec nous autres. On décortique la liste d'armes pour voir si les armes que vous avez en main sont devenues illégales ou pas. Connectez-vous avec nous autres sur les différents médias sociaux, mais particulièrement sur le acpnation.com à 20h ce soir.
Merci beaucoup. 13h23, vous avez soif de musique. C'est le temps de choisir votre chanson rock de l'année dans le cadre de l'ultime combat des tunes qui va être présenté par Chaloux. Chaque jour en semaine, c'est pas mal le dernier, il y a deux chansons différentes qui vont s'affronter pour la première place. La première place sera annoncée demain dans l'émission de Reg. Allez faire un tour sur nos comptes Facebook et Instagram. Vous allez pouvoir voter. Je vous le dis, là, les deux tunes qui sont en concurrence aujourd'hui, c'est les deux meilleures tunes de l'année. Mais il y en a une qui est ma préférée. C'est The Emptiness Machine de Linkin Park qui est juste hallucinante. La voix de la chanteuse, elle me rentre dedans constamment à chaque fois que ça joue dans ma voiture.
Puis l'autre, ben, influence les gens,
c'est
là.
Sum 41 avec Dopamine que je vous fais entendre à l'instant. Donc, c'est le temps de voter sur page Facebook, page Instagram. Et l'autre, ben, je me gâte. C'est Linkin Park, The Emptiness Machines que vous allez entendre dans les prochaines secondes.
L'ultime!